Merci de passer la soirée avec nous. On est ensemble en direct jusqu'à minuit. Washington, vous le savez, veut aller vite. Le Kremlin lui prend son temps et dicte ses conditions. Une trêve, oui, mais à notre manière, a répondu aujourd'hui Vladimir Poutine.
Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités. Mais nous pensons que cet arrêt doit être un arrêt qui mène à une paix durable et qui s'attaque aux causes profondes de cette crise. Comment saurons-nous assurer que l'Ukraine ne procédera pas à un réarmement? Comment le cessez-le-feu sera-t-il organisé? J'espère que cela est clair pour tout le monde. Il s'agit de questions de bon sens. Ce sont toutes des questions sérieuses. L'idée d'une trêve est donc bonne et nous la soutenons. Mais il y a des questions dont nous devons discuter. Et je pense que nous devons en parler à nos partenaires américains. Peut-être même au président Trump, en l'appelant et en discutant avec lui.
Yves Triard, Jean de Glignassy et Marianne Babiche sont toujours à nos côtés. Et j'accueille le général Christophe Gomard qui nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes eurodéputé LR, ancien directeur du renseignement militaire. Et bonsoir, Ulysse Gosset, éditorialiste international à BFM TV. Jean de Glignassy, dans le langage Poutine, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un nom poli?
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une étape d'une négociation qui s'organise un peu comme Kissinger au Moyen-Orient, par navette, puisque Zelensky et Poutine ne se parlent pas, donc les Américains font la navette de l'un à l'autre, et chacun essaye de faire monter les enchères. Je ne pense pas que ce soit un refus. D'ailleurs, il est de fait que s'il y a une trêve, un cessez-le-feu, il faudra savoir ce qu'on fait des soldats ukrainiens qui semblent être encerclés du côté de Soudja. Il va falloir régler la question. Est-ce qu'il va y avoir effectivement, comme le demande Poutine, l'interruption des approvisionnements en armes de l'Ukraine? Donc il y a une partie des conditions qu'il pose qui sont en fait plus exactement les modalités de définition du cessez-le-feu. Et puis il y a les conditions à long terme qui sont conformes au langage permanent de la Russie. Il faut éradiquer les causes profondes de la crise et que la paix soit durable. Deux choses un peu différentes.
Alors justement, on va revenir sur le fond dans un instant et sur ces fameuses questions qui sont soulevées, qui sont effectivement des questions auxquelles on n'a pas de réponse dans l'immédiat, Ulysse Gosset. Mais ce qui est intéressant dans la prise de parole aujourd'hui de Vladimir Poutine, c'est qu'effectivement, il soulève des conditions, mais il n'énumère pas précisément ces conditions. Il parle de paix durable, il parle de régler les causes profondes du conflit. Ces conditions, quelles sont-elles?
Alors, il y en a quand même au moins trois. Il y en a une qui est absolument fondamentale, c'est le refus de voir l'Ukraine appartenir à l'OTAN, à l'Alliance Atlantique. Mais surtout, il dit qui va contrôler ce cessez-le-feu qui s'étale sur une ligne de 2000 kilomètres. C'est quasiment infaisable. Donc, un accord de cessez-le-feu, ce n'est pas réaliste. Ce qu'il faut, dit-il, c'est un accord durable. Et le problème, c'est qu'un accord durable, ça remet en cause tellement de choses que ce n'est pas atteignable en quelques jours. Ce qui ressort de ce témoignage de Poutine, c'est qu'il n'est pas pressé de signer un accord de cessez-le-feu. Il veut prendre son temps. Et là, il est en contradiction totale avec Donald Trump, qui, lui, veut aller vite. Mais Poutine, donc, dresse quand même les lignes rouges. C'est-à-dire, en particulier, sur la façon dont on pourra surveiller, effectivement, un accord. Et là, il dit, il n'est pas question d'accepter la présence de troupes de l'OTAN, donc, européennes, britanniques ou autres. Mais le point le plus important ce soir, c'est que Poutine met l'accent sur la région de Koursk, où se déroulent des combats, et qui est donc, pour nos téléspectateurs, c'est une partie de la Russie qui a été conquise depuis quelques 8 mois par les Ukrainiens, et qui sont en train de la quitter, mais qui sont encore à l'intérieur. Poutine n'acceptera pas d'accord de cessez-le-feu s'il n'a pas repris le contrôle total de cette zone. C'est le message ce soir. Alors, est-ce que ça prendra plusieurs jours? Est-ce que les Ukrainiens vont partir? Ça, c'est vraiment un point très important. Et il dit, tous les soldats ukrainiens qu'il qualifie de terroristes ne pourront pas rentrer chez eux comme si de rien n'était. Donc c'est ça l'une des conditions, c'est libération entre guillemets ou retrouver le contrôle de ce territoire. Qu'est-ce qu'on va faire des soldats ukrainiens qui sont dedans et qui seront prisonniers, puisqu'on sait déjà qu'il y en a plusieurs centaines qui ont été faits prisonniers. Et après cela, on pourra discuter.
On va revenir justement dans un instant avec vous, Général, sur la situation dans la région de Koursk. Et effectivement, les objectifs de Vladimir Poutine et jusqu'où estimera-t-il que les gains territoriaux sont suffisants pour pouvoir entamer ces négociations. Mais j'aimerais quand même juste revenir, Jean de Vignassi, sur le fonctionnement de Vladimir Poutine. Parce que j'entendais l'ambassadeur de Russie à Londres, qui est un personnage clé, qui est un porte-voix du Kremlin, et qui dit « on arrêtera nos opérations militaires que lorsqu'il y aura un accord de paix ». Donc on a l'impression qu'on est dans une logique inverse, où Ukrainiens et Américains disent « un cessez-le-feu pour ensuite négocier ». Ce que dit l'ambassadeur de Russie, c'est l'inverse. C'est « on négocie d'abord, à d'abord un accord de paix, et ensuite un cessez-le-feu ». C'est ça qu'il a voulu dire aussi ce soir, Vladimir Poutine ?
Moi, je trouve que je n'ai pas vu les déclarations de l'ambassadeur de Russie à Londres, mais c'est inquiétant. Ce qu'il dit, c'est exactement l'inverse du schéma proposé par Trump. Le schéma proposé par Trump, c'est on fait le cessez-le-feu, on commence la négociation tout de suite sur le fond. C'est pour ça que il n'est pas absurde que Poutine rappelle ses préoccupations sur le fond dès maintenant, puisque s'il y a un cessez-le-feu, on va démarrer tout de suite la discussion. En revanche, ce que dit l'ambassadeur est contradictoire avec le schéma qui est proposé.
Avec le schéma qui est proposé, et c'est toute la question, qu'est-ce que Poutine met derrière ce mot de trêve ?
Bah, c'est tout le problème, et il va falloir que Trump le comprenne, parce que à mon avis, la balle est dans le camp de Trump maintenant. Elle est du côté de Trump, qui va devoir convaincre Poutine, eh bien, d'accepter la trêve qui a été négociée avec Zelensky.
Donc c'est assez habile, vous dites, cette réponse de Vladimir Poutine, de ne pas fermer la porte, c'est une façon de renvoyer la pression sur les épaules de Trump.
Et maintenant, il va mettre une pression énorme sur, avec les conditions qui ont été posées par Ulysse, il va mettre une pression énorme maintenant sur Donald Trump, évidemment.
Général Gomard, il a insisté effectivement beaucoup sur ce qu'il se passait à Koursk, dans cette région, Ulysse l'expliquait tout à l'heure, qui est occupée depuis un an par l'armée ukrainienne. Il y a une contre-offensive spectaculaire. La Russie et la région est sur le point de tomber. D'ailleurs, l'armée ukrainienne a appelé ce soir à évacuer certaines localités. Ce qu'on comprend, c'est que tout est figé tant qu'il n'y aura pas un retrait complet de l'armée ukrainienne. Est-ce que Volodymyr Zelensky va demander à ses soldats de se retirer, et est-ce qu'il doit le faire ?
Est-ce qu'il va le faire ? Je ne sais pas.
Est-ce qu'il doit le faire ?
C'est tout la problématique, parce qu'évidemment, il était en opposition avec ses généraux quand il a donné l'ordre de lancer cette contre-offensive, c'est-à-dire cette prise de gain territoriale, qui malheureusement s'avère être un échec. Et on voit bien derrière qu'effectivement, Vladimir Poutine attend une seule chose, c'est de reprendre le territoire russe. Et ça, pour lui, c'est absolument indispensable, parce que ensuite, dans la négociation, les Ukrainiens ne pourront pas revendiquer ce territoire contre un territoire ukrainien. Et c'est bien. Aujourd'hui, vous avez sur le terrain environ 60 000 Russes, 40 000 face à 40 000 Ukrainiens environ. Et la technique russe, c'est l'encerclement. Je crois qu'il ne reste plus qu'un axe d'évacuation. Et pour les Ukrainiens restant au sol, c'est assez compliqué. Donc,
Elle est perdue, de fait, cette région pour les Ukrainiens.
Cette région est perdue pour les Ukrainiens.
Alors, quel est l'intérêt de résister encore ? C'est en termes de guerre d'image, de guerre de communication ?
Non, pas que. C'est garder ce gain territorial dans le cadre des négociations. C'est-à-dire que pour les Ukrainiens, c'est un gage territorial qu'ils tiennent et qui peut être discuté, négocié avec les Russes face et contre quelque chose d'autre.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça tient encore, vu la situation dans laquelle sont les Ukrainiens ?
C'est très compliqué. Aujourd'hui, pour moi, c'est dans 3 ou 4 jours, ou moins d'une semaine, en tous les cas. Je pense que les Ukrainiens qui seront encore là auront perdu. Et on voit bien derrière la rupture de la chaîne du renseignement américain, qui a sans doute permis, en effet, cette offensive russe face à l'armée ukrainienne.
Le renseignement américain a compté ?
Je penserais, parce qu'en fait, en tous les cas, c'est assez...
L'arrêt provisoire du renseignement américain.
C'est-à-dire que la fin du renseignement américain correspond exactement à l'offensive russe, enfin la contre-offensive russe. C'est à peu près au même moment. Alors, est-ce que ça a joué ? Je ne sais pas, j'étais pas sur le terrain. Mais en tous les cas, bizarrement, ça se passe à peu près au même moment.
Ulysse, je pensais que vous vouliez rajouter un mot.
Oui, moi je pense en fait que la bataille a été déclenchée par Poutine depuis au moins une quinzaine de jours. Il veut en finir, entre guillemets, avant un éventuel cessez-le-feu ou accord. N'oublions pas qu'hier, il était sur le front. Il est allé en tant que chef de guerre, uniforme à l'appui, à Koursk. Quand le tsar se déplace à Koursk, c'est pour dire « Koursk, c'est à moi » et pas aux Ukrainiens. Et donc, avant toute négociation, tout dialogue, il veut absolument montrer sa force et montrer ses muscles. Et donc, il va mettre le maximum de moyens. Hier, il a énuméré une par une toutes les unités et parmi certaines des unités d'élite pour dire ils sont sur le front et ils vont libérer, il faut libérer cette région. Donc ça, on voit très bien la posture de Poutine sur cette région-là. En même temps, il doit effectivement ne pas se fâcher avec Trump. Et il l'a fait très habilement. C'est-à-dire qu'il a commencé son intervention aujourd'hui. Je remercie le leadership de Donald Trump qui nous permet enfin de pouvoir arriver à une paix que nous avons toujours voulu. Et c'est de la faute des Ukrainiens. Il a renversé complètement la charge de la preuve. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a déjà à Moscou un émissaire. Le conseiller pour la sécurité de Trump était en Arabie Saoudite. Là, il a envoyé le négociateur spécial, un homme d'affaires, un homme de l'immobilier, qui n'est pas un expert de la diplomatie ou des armées, mais qui est un homme qui sait négocier. Donc, Trump a déjà quelqu'un au Kremlin pour discuter. Si et puisque Poutine a annoncé, c'est qu'ils vont se parler enfin au téléphone. Il y aura un coup de téléphone officiel. Jusqu'à présent, on sait qu'ils se parlent, mais on ne sait pas quand, comment, etc. Là, il va y avoir une prise de contact directe.
Confirmée par Donald Trump. On verra quand aura lieu cette prise de contact. On va retrouver tout à l'heure, dans quelques minutes, notre correspondant à Washington, parce qu'il y a eu effectivement la réponse de Donald Trump à cette déclaration de Vladimir Poutine. Mais juste avant, j'aimerais qu'on écoute le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
І тому вони там мозки обставляють ідею тиші.
Poutine agit souvent ainsi. Il ne dit pas non franchement, mais fait en sorte que tout s'éternise.
Путін часто так робить.
Не каже. Et que les solutions normales deviennent impossibles.
Так що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми не ставимо умов.
Nous ne posons pas de conditions qui compliquent les choses, contrairement à la Russie. Comme nous l'avons toujours dit, le seul pays qui fait en sorte que tout s'éternise, le seul qui ne va pas être constructif, c'est la Russie. Ils ont besoin de la guerre. Poutine a volé des années de paix et continue cette guerre, jour après jour.
Poutine a besoin de la guerre, dit Volodymyr Zelensky. Jusqu'à quel point? On évoquait la région de Koursk. Quand estimera-t-il que son avantage sur le terrain est suffisant pour accepter de négocier?
Poutine a vraiment commencé cette guerre, donc il a besoin de cette guerre et il ne s'arrête pas. Et on voit bien que le cessez-le-feu, ce sera quand même une étape importante pour pouvoir mener les négociations sans les batailles, sans les pertes, sans les morts, sans les pertes humaines. Mais on ne sait pas jusqu'à quand ce seront ces limites. Il a imposé l'absence de réarmement en Ukraine, l'absence de mobilisation, l'absence de préparation des soldats en Ukraine, comme les conditions obligatoires pour pouvoir signer un accord pour la paix durable. Mais déjà, la paix durable, c'était quand même des paroles très hypocrites, à mon avis, de la part de Poutine. Même en parlant concernant la situation à Koursk ces derniers jours, on vient de recevoir, je crois, aujourd'hui une vidéo où il y a 5 soldats ukrainiens qui sont pris en captivité par les Russes et qui ont été fusillés. Donc, on voit bien les crimes de guerre.
Il l'a dit, hein, Poutine. De toute façon, il les considère comme des terroristes, les soldats,
oui.
Les soldats
ukrainiens. Après, le chef d'état-major ukrainien Sirski a annoncé aussi que c'est pas dans nos intérêts de perdre nos hommes ukrainiens, nos soldats ukrainiens dans les régions de Koursk s'il y a besoin.
Donc vous dites, en fait, l'armée ukrainienne n'a pas intérêt à résister. Il faut lâcher cette région de Koursk.
Oui, c'est ça. C'était plutôt une monnaie d'échange et apparemment.
Et ça n'en est plus une aujourd'hui.
Il y a des rumeurs que peut-être il y avait déjà peut-être des accords. Peut-être au préalable que l'armée ukrainienne commence ce retrait. Et le retrait est déjà commencé, parce qu'on a commencé à perdre les territoires sur ce côté-là. Mais aussi à rajouter quand même que Poutine ne cherche pas la paix. On le voit, parce que c'est pas juste la guerre pour les territoires de son côté. On le voit juste dans la dimension. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, la ville de Kherson, qui est ma ville natale. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Quels étaient les objets stratégiques qu'ils ont visés? L'école, mon école primaire, mon école secondaire, la bibliothèque régionale, la bibliothèque municipale, mon lycée, l'université d'État de Kherson, l'église, le centre culturel, tout ça dans un seul quartier. Donc, on voit vraiment un petit quartier de la ville qui est complètement détruit. Et ce sont des établissements des civils, ce ne sont pas des objets militaires et stratégiques.
Jean de Gignassi, est-ce que Vladimir Poutine a vraiment envie d'entrer dans un processus de négociation?
Je ne sais pas, je ne suis pas dans son esprit, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments objectifs qui plaident pour qu'il s'en sorte. Parce qu'on sent une certaine lassitude dans la population russe. Les résultats économiques de la Russie en 2025 seront bien moins bons en 2024. Le prix du pétrole est en train de se casser la figure, ce qui veut dire que les revenus russes vont diminuer. Les taux d'intérêt sont très élevés, l'inflation aussi, et ils n'arrivent pas à lutter contre. Et surtout, la perspective de renouer un courant d'affaires avec les États-Unis, mais c'est extraordinairement séduisant pour la classe politique russe et les hommes d'affaires russes. Donc en fait, il y a pas mal d'éléments qui plaident pour que il essaye de trouver une solution.
Mais la solution aussi, elle est assez radicale, parce que je pense que vous avez tout à fait le regard juste là-dessus, mais j'ai l'impression, et il y avait un symbole aujourd'hui très très fort, le fait qu'il est le président de Biélorussie à côté de lui. Mm-hmm. Il veut faire de l'Ukraine, il veut faire une deuxième Biélorussie. C'est-à-dire un pays.
Alors c'est vrai que c'était assez frappant parce que il faut expliquer effectivement le contexte de cette prise de parole, de cette réponse de Vladimir Poutine. Oui. C'était lors d'une conférence conjointe effectivement avec Alexandre Loukachenko, le président biélorusse.
Biélorusse qui était à sa botte, hein.
Qui était effectivement à ses côtés. Et vous dites que le message envoyé, c'est de dire la Biélorussie qui est un satellite de la Russie, on veut faire la même chose avec.
Subliminalement, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire c'est un pays. Comme il a été déjà dit, à mon avis, où il peut pas souffrir que ce pays soit armé et que cette armée soit éventuellement dirigée contre lui. Mmh. Il peut pas supporter que ce pays penche vers l'Ouest, vers l'Occident qu'il déteste, tout comme ce monsieur qu'on vient de voir qui s'appelle Lavrov, qui a des mots sur l'Occident, mais absolument ignoble et détestable. Et en plus, il veut en changer, je crois que c'est un de ses objectifs, il veut en changer la tête, c'est-à-dire qu'il veut revenir à une situation antérieure où le dirigeant de l'Ukraine, ça soit quelqu'un qui soit à sa main aussi. Il veut absolument que Zelensky soit chassé, que la démocratie qui commençait à s'installer sans corruption, enfin tout un travail très très long, tout ça soit gommé.
Effectivement, la présence du président biélorusse Loukachenko à côté de Poutine est fondamentale. En plus de tout ce qui vient d'être dit, n'oublions pas que Poutine a décidé d'envoyer des armes nucléaires en Biélorussie. On n'a jamais su si elles étaient effectivement là-bas ou pas, mais il l'a dit à plusieurs reprises, faisant peser une menace sur l'Ukraine en disant « si un jour la situation nous échappe, on a des armes nucléaires en Biélorussie ». C'est à la fois une volonté de démontrer sa volonté de puissance et sa force, mais c'est également un calcul qui peut être dangereux. Parce que aujourd'hui, que voit-on ? Les Polonais demandent officiellement à Trump d'installer des armes nucléaires en Pologne. La Pologne est frontalière de la Russie et de l'Ukraine. Donc c'est
un
des pays
explosés. Il y a une espèce d'escalade extrêmement dangereuse.
Donc effectivement, c'est d'ailleurs l'un peut-être des moyens de négociation que va avoir Donald Trump. C'est-à-dire que en mettant à côté de lui Loukachenko, Poutine finalement dit c'est mon allié et d'ailleurs il a des armes nucléaires et si ça se passe mal, on va réagir ensemble. Donc c'est une menace. Mais Trump peut dire à Poutine, si tu veux continuer sur ce terrain-là et si tu ne veux pas négocier la paix, moi je vais envoyer des missiles nucléaires en Pologne. Et si tu veux la guerre, tu l'auras. C'est ça le moyen de pression absolument essentiel dont dispose Trump si les choses ne se passaient pas bien et si Poutine refusait de signer un accord.
C'est ça précisément parce qu'il a expliqué, il a expliqué aujourd'hui Donald Trump avoir un levier de pression sur la Russie, mais il n'a pas précisé lequel.
Il y a plusieurs leviers. Oui.
Mais il a parlé d'un levier de pression. Alors,
à mon avis, c'est le levier fondamental auquel il faut ajouter d'éventuelles sanctions supplémentaires, peut-être une action sur les prix du gaz et du pétrole pour amoindrir les recettes de la Russie. Mais l'argument massue, c'est cela. Tu ne veux pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN, mais tu armes la Biélorussie avec des missiles nucléaires. Eh bien, si tu ne veux pas la paix, eh bien, on va, nous aussi...
armer la Pologne.
Voilà. Mais on n'en est pas là. Attention, parce que quand Trump dit...
Mais encore une fois, c'est dans ce rapport de bras de force. Et qu'est-ce qu'on met sur la table,
voilà, Il dit, c'est prometteur, mais c'est pas suffisant. Poutine ne veut pas se presser, Trump va lui faire une pression maximum pour qu'il se dépêche.
Alors justement, vu de Washington, on va retrouver Antoine Hollard, notre correspondant sur place. Bonsoir, bonsoir Antoine. Pas pleinement satisfait, mais pas pleinement mécontent non plus, Donald Trump ce soir, si je dois caricaturer un peu sa position, sa prise de parole.
Oui, c'est exactement ça. En fait, Donald Trump espère toujours convaincre Vladimir Poutine de signer cet accord de cessez-le-feu, de faire une trêve, d'arrêter les combats. Et pour cela, eh bien, Trump a envoyé en Russie son homme de confiance, Steve Witkoff, qui était au Kremlin aujourd'hui, qui a probablement rencontré Vladimir Poutine, et pour préparer le terrain, d'une certaine façon, à un coup de fil au sommet qui pourrait avoir lieu très rapidement entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Trump, en tout cas, dit qu'il souhaite parler au président russe. Quand on écoute Donald Trump aussi, on comprend quelle va être un peu la stratégie des Américains dans ces discussions avec les Russes. On va parler notamment des avantages que la Russie pourrait avoir à signer cette trêve. Avantages, par exemple, en termes de gains de territoire. Trump a dit très clairement qu'on allait parler de la répartition des territoires, quels territoires les Russes allaient pouvoir s'accaparer, quels territoires les Ukrainiens vont devoir céder. Et puis, les Américains vont probablement aussi faire miroiter une levée des sanctions économiques et financières qui frappent la Russie. Ça peut être un levier intéressant pour séduire Vladimir Poutine. Trump, en tout cas, prend acte de la réponse russe, réponse encourageante, mais incomplète. Écoutez Donald Trump.
Il a fait une déclaration très prometteuse, mais elle n'était pas complète. Et oui, j'aimerais beaucoup le rencontrer ou lui parler, mais nous devons en finir rapidement. Vous savez, tous les jours, des gens sont tués.
Voilà, Donald Trump dit à nouveau qu'il veut également aller vite. Ça, c'est une priorité pour lui, obtenir le plus rapidement possible un cessez-le-feu. C'est pour des raisons notamment d'image. Trump, pendant la campagne, s'était vanté de pouvoir arrêter le conflit en l'espace de 24 heures. Et aujourd'hui, il veut prouver à ses électeurs qu'il est un président fort, capable d'imposer sa volonté et d'obtenir des résultats sur la scène internationale. Ça veut dire aussi que Vladimir Poutine ne va pas pouvoir jouer la montre trop longtemps, au risque d'agacer encore un peu plus Donald Trump.
Merci beaucoup Antoine Hollard. Marianne Babiche, c'est extrêmement important ce que vient de dire Antoine Hollard. Il dit voilà, dans les négociations qui pourraient être engagées entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il sera question de la répartition des territoires. La répartition, c'est précisément ça l'inquiétude aujourd'hui en Ukraine, que Donald Trump, pour avoir cette trêve rapide, cède les 20% de territoire occupés en ce moment par les Russes.
Ce que j'entends en Ukraine, la préoccupation principale, c'est pas vraiment même les territoires, mais c'est la dimension humaine. Ce sont les gens qui sont restés sur ces territoires occupés. Parce que avec les territoires occupés, on a eu énormément de cas des enfants déportés. On parle de chiffres officiels de 20 000, entre 20 et 30 000 des cas des enfants déportés. On parle aussi d'énormément de victimes de violences, comme les femmes et les hommes qui sont aussi pro-ukrainiens et très actifs et qui ont subi des tortures. Donc c'est plutôt cette dimension humaine. Qu'est-ce qui viendra à ces gens-là qui restent sur ces territoires occupés, qui n'ont pas de possibilité de revenir en Ukraine? Comment on va faire? Et bien sûr, on ne peut pas accepter ces territoires, on ne peut plus les considérer comme russes. Dans notre constitution, on a les frontières, c'est notre ligne rouge, on dirait, les frontières ukrainiennes. Et nous espérons pouvoir les récupérer, mais de façon diplomatique. Bien évidemment que juste la façon militaire, on ne peut pas faire la guerre longtemps. On
n'a pas. Oui, vous ne pourrez pas les récupérer avec votre armée, ça doit se négocier de façon sur le terrain de la diplomatie. Mais c'est précisément tout le danger de ces 30 jours, parce que 30 jours de trêve, si Vladimir Poutine acceptait 30 jours pour faire quoi? Est-ce que c'est 30 jours pour persuader l'Ukraine de céder ses territoires à la Russie?
D'abord, effectivement, il y a une convergence entre Trump et Zelensky actuellement. C'est-à-dire que l'un et l'autre veulent un cessez-le-feu très rapide. Et là, ils s'opposent à la Russie et ça affaiblit la position diplomatique de la Russie qui, elle, cherche à gagner du temps pour les raisons que vous avez soulevées. Maintenant, on a dit qu'il y aurait un démarrage de la négociation dès le cessez-le-feu. Donc la question des cessions de territoire, la question justement de la survivance, parce que c'est ça l'enjeu fondamental, c'est la survivance de l'Ukraine comme pays indépendant, libre de choisir ses alliances, à défaut de ses alliances militaires, au moins l'Union européenne, etc. Le véritable enjeu, c'est ça, c'est la survie de l'Ukraine en tant que pays indépendant. Mais ça ne sera réglé qu'à l'issue de la négociation. Donc en fait, une troisième question se pose, c'est jusqu'à quel point le scénario n'a pas déjà été en partie écrit et par les Russes et les Américains lors des contacts préalables. Il y a probablement des grandes lignes qui ont été déjà définies.
Pour vous, vous avez l'impression que cet accord de paix est déjà dessiné, oui, plus ou moins dessiné,
parce lignes. Que c'est vrai que c'est pas possible autrement, parce que moi je trouve que le fait d'avoir mis 30 jours, C'est un piège. Enfin, je veux dire, on sait très bien que ce cessez-le-feu, je sais pas s'il va.
C'est un piège pour les Ukrainiens?
C'est un piège pour Trump. Parce que qu'est-ce qui se passe si au bout de 30 jours, il n'y a pas de cessez-le-feu? Qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire que sa parole ne pèse plus.
Moi, je pense renvoie que... la responsabilité aux Russes?
Oui, mais enfin bon, ouais. Il prétend. Il a prétendu.
Non, mais on voit qu'il y a beaucoup de guerres de communication aussi.
Il a prétendu faire la paix en 48 heures d'abord. Bon, ça, on a déjà oublié. Maintenant, il dit je vais aller vite, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il s'est fait élire encore une fois. Il ne faut pas oublier son opinion publique. Il s'est fait élire sur l'idée que c'était un peacemaker. Hein, c'est lui qui fait la paix. Et donc, si. Et comme Poutine est quand même. On dit qu'il est imprévisible, Trump, mais alors Poutine, c'est encore pire. Ou alors il est tellement prévisible qu'on sait qu'il va pas respecter sa parole. Mmh. Donc moi, je trouve que Trump s'est mis dans une situation extrêmement compliquée, avec des contraintes. Et on voit que finalement, avec le dossier ukraino-russe, il va se retrouver dans à peu près la même situation qu'avec ses dossiers économiques, où il prend une décision, il est obligé de changer. Et là, pour le coup, ça serait pire que tout.
Oui, mais alors je rebondis sur ce que disait Jean de Vignasti, parce que effectivement, c'est une musique qu'on entend, ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu un accord déjà, un deal qui se serait déjà fait entre les Russes et les Américains, avec certaines conditions qui seraient la non-adhésion à l'OTAN, qui serait la démilitarisation de l'Ukraine, peut-être même les élections et peut-être mettre la tête de Volodymyr Zelensky, et que finalement, tout ça serait une espèce de mise en scène.
Oui, non, mais effectivement, les grandes lignes de l'accord étaient sur la table jusqu'au moment où le président ukrainien Zelensky a dit « mais non, il faut des garanties de sécurité ». D'où le clash à la Maison-Blanche, qui a failli mettre tout par terre. Et puis finalement, il y a eu la réaction des Européens, dont on dit toujours qu'ils ne servent à rien et qu'ils sont absents des négociations, mais il y a eu une telle réaction en Europe, il y a eu une telle mobilisation au niveau...
Sergueï Lavrov l'a dit aujourd'hui, il a dit on ne s'intéresse pas du tout à la position des pays de l'Union européenne dans le règlement du conflit.
Évidemment, mais il a tort, parce que quand on voit plus de 30 chefs d'état-major arriver à Paris autour d'Emmanuel Macron pour discuter justement des conditions de la paix, des planifications militaires pour envoyer des troupes éventuellement, ou tout simplement pour envisager l'avenir de l'OTAN, il a tort de dire que ça ne sert à rien. Enfin, de son point de vue, il a raison de minimiser, mais en fait, c'est quand même un événement assez considérable. Ouais. Donc, si vous voulez, tout ça fait que, effectivement, Trump a lui-même est revenu en arrière, et finalement, l'accord signé à Riyad est absolument incroyable, parce que non seulement il dit on s'est mis d'accord ensemble, mais il salue le courage des Ukrainiens dans la lutte contre finalement l'occupation russe, etc. Donc c'était à mon avis un désaccord cinglant de la position russe, et le fait qu'il y ait eu ça a mis Poutine dans une situation où il a été obligé quand même de dire vous avez raison Donald Trump, il faut qu'on aille vers la paix, mais il ne pouvait pas dire oui. Donc il est dans un jeu très compliqué, et moi je pense que le plus embêté aujourd'hui c'est Poutine, parce que il a quand même fondamentalement besoin de la reconnaissance de Trump.
Vous pensez que c'est Donald Trump aujourd'hui qui a encore les cartes en main, qui tire les ficelles, qui est l'avantage est à Trump?
Oui, mais le verrou c'est Poutine. Non mais c'est parce que c'est complexe, parce que il y a un jeu d'échecs planétaire où effectivement chacun avance ses pions. Moi je pense que l'homme fort de la situation ça reste Trump. C'est lui qui peut imposer un changement radical de situation. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on le voit tous les jours dans les domaines commerciaux, mais également sur la guerre en Ukraine. C'est lui qui a la carte en main. Poutine, par contre, il peut bloquer.
Et juste un mot, Général Gomard, dans ce jeu d'échecs, le rôle de l'Europe. Vous disiez, Ulysse, Sergueï Lavrov a tort de balayer les Européens d'un revers de main. Et pourtant, quand on écoute la conférence de presse cet après-midi de Vladimir Poutine, il a rendu hommage aux chefs d'État de 4 pays qui, à ses yeux, se sont impliqués dans le règlement du conflit, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde et le Brésil. Pas une mention des Européens.
Il a tort, parce qu'en fait, de fait, là, ce que disait Ulysse Gosset à l'instant, c'est que la réunion de 30 chefs d'État-major est un vrai message à plusieurs destinataires. Un message vers les Ukrainiens pour remonter le moral, en disant, écoutez, l'Europe est toujours là. Un message également vis-à-vis des Russes, en disant, attendez, l'Europe existe, et un message vis-à-vis des Américains en disant, bah, écoutez, on arrive à se débrouiller sans vous et on va le faire sans vous. Donc à la fois, l'Europe cherche à exister, mais on voit bien que dans le court terme, c'est plus entre les États-Unis et la Russie et Zelensky, et dans le moyen et long terme, ça sera plus le rôle de l'Europe. Comment l'Europe fait-elle pour empêcher le désarmement de l'Ukraine? Comment l'Europe fait-elle pour que l'Ukraine reste indépendante? Et comment fait-elle pour que l'Ukraine puisse choisir son chemin d'avenir? C'est ça, l'enjeu, il est là. Au-delà des territoires dont on parle à l'instant, au-delà de la poche de Koursk, je pense que le véritable enjeu demain, Il est là, c'est-à-dire quid de l'avenir de l'Ukraine.
Avec un avertissement quand même qui a été lancé, Yves, par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, qui dit « En cas d'arrêt des hostilités, ce serait considéré par Moscou comme un conflit armé direct si les Européens envoyaient des troupes dans le cadre de
garanties
sécuritaires. »
C'est bien la preuve, que l'Europe gêne, mais que l'Europe est bien présente malgré tout, même si on n'en parle pas.
Et en même temps, c'est vrai que Lavrov, même si c'est un vrai diplomate soviétique dans l'esprit devenu russe, ou redevenu russe, il a raison de faire appel au sud global dont on parle tout le temps, l'Afrique du Sud, le Brésil, etc. Parce que effectivement, dans le monde, on n'a pas toujours la même perception de la guerre en Ukraine, rappelons-le. Il y a même une vraie divergence. Et en Afrique, il y a beaucoup d'États qui considèrent que finalement, c'est pas leur guerre et qu'il faut pas la faire. Donc, en titillant les Européens en disant qu'ils ne servent à rien et en cajolant les pays du sud global, eh bien, il joue son jeu de diplomate soviétique.
On va prendre la direction de l'Ukraine parce que notre envoyé spécial Igor Saïri nous attend là-bas. Bonsoir Igor, comment accueille-t-on les réserves de Vladimir Poutine sur le sujet de la trêve et concernant la région de Koursk, est-ce que on est prêt à se retirer complètement?
Écoutez, Perrine, je suis allé faire un tour sur les réseaux sociaux ukrainiens et ce que j'en retiens, eh bien, c'est que ça va un petit peu dans le sens de ce qui est dit actuellement en plateau, c'est-à-dire que il y a deux rumeurs qui circulent actuellement sur les réseaux. D'abord, la première, c'est que finalement le retrait partiel, en tout cas pas total, des troupes ukrainiennes dans la région de Koursk aurait été un préalable exigé par les États-Unis auprès de l'Ukraine pour pouvoir faire avancer les choses et notamment convaincre Vladimir Poutine d'un cessez-le-feu. Et par ailleurs, l'autre rumeur serait que les sanctions économiques dont menace Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine auraient été retirées pour que Vladimir Poutine fasse un pas, ou en tout cas un demi-pas, vers ce cessez-le-feu. Quant aux Ukrainiens que nous avons rencontrés avec Marjorie Marcillac, écoutez, ces conditions que demande Vladimir Poutine les laissent songeurs, finalement. Vladimir Poutine fait du Vladimir Poutine. Écoutez.
Je pense que chacun des mots qui sortent de sa bouche sont des mensonges. Il ne tient jamais ses promesses, alors je ne pense pas qu'il dise la vérité.
Nous ne pouvons pas négocier avec Poutine. Dans tout ce qu'il dit, dans tout ce que j'entends aux actualités sur la ligne de front, eh bien personne ne prononce les mots cessez-le-feu ou paix.
La seule réaction nuancée que j'ai eue ce soir parmi les Ukrainiens que j'ai rencontrés, c'est finalement vis-à-vis de ces 2000 kilomètres de frontière, ou en tout cas dans le Donbass où il y a la ligne de front, c'est que finalement ce serait très compliqué de vérifier qui bouge ou pas du côté ukrainien ou du côté russe.
Merci beaucoup Igor Saïri avec Marjorie Marcillac. Vu du front, justement, comment perçoit-on cette séquence, cette tractation autour d'une éventuelle trêve et la progression russe dans la région de Koursk?